présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Dans le marché du travail de ces robots humains crée des troubles. Les chômeurs protestent parce qu'ils prennent leur place pour pas un rond et créent encore plus de chômage. Dans la police, l'armée, les domestiques. Il y a des manifestations de chômeurs dans les rues. Les bagarres se créent entre les chômeurs et les chimères mutants. Il y a des manifestations de partout. Dans les bureaux de placement, les chômeurs viennent se battre contre les robots humains. Les robots, mutants, chimères, sont très forts. En même temps, n'ont pas de pitié. Ils tuent comme ça les humains. les pauvres humains qui sont moins forts qu'eux, qui ne peuvent pas voler, qui ne peuvent pas voir comme eux, aussi bien qu'eux, à 360 degrés, qui ne savent pas se battre froidement, qui sont sous-alimentés, tandis que les robots, eux, n'ont presque pas besoin de manger. La lutte est dure. Les hommes se battent avec presque rien, de vieux fusils, armes blanches. Les robots ont des armes. Eux-mêmes sont des armes. Car c'est eux qui sont l'armée, la police. Ça, c'est les manifestants. Coup de canon, mitraillettes, tanks, hélicoptères. Et certaines chimères volent. La guerre fait rage et le groupe Jeune Tout est inquiet car pendant ce temps il n'y a pas de vente. Les gens se sentent solidaires et ont peur des chimères. Les chimères mutants robots détruisent beaucoup de villes. De nombreux humains. La guerre est très dure. Les hommes s'épuisent.
C'est pas la peine.
La police armée, conduite de camions, avions, bateaux, trains. C'est tous les chimères qui éteignent tout ça. C'est pratique parce qu'il n'y a pas de charge sociale. Et cela risque de créer des incidents, comme on le voit. Ils détruisent de plus en plus de villes, des chimères et d'êtres humains. La guerre est de plus en plus dure, les hommes s'épuisent et petit à petit les chimères gagnent du terrain et entrent de plus en plus dans la police, l'armée, les conduites de camions, avions, bateaux, etc. etc. C'est pratique et c'est pas cher. Et que vont devenir les êtres humains? Les chimères les détruisent. Détruisent des villes. Le groupe Jeune Tout est inquiet. Désormais, c'est les chimères qui font la police et les mutants.
Tu vois quelque chose ?
ces hommes robots ont des puces à l'intérieur qui les télécommandent d'un central. Où l'on sait où ils sont, ce qu'ils font, et grâce à la télévision, l'on voit ce qu'ils voient. Le tout relié à l'ordinateur. On leur donne des ordres qu'ils exécutent. Cela s'appelle ordre intérieur, conscience. Et les ordres que leur chef humain s'appelle ordre extérieur. Mais l'ordre extérieur peut être déconnecté par l'ordre intérieur. C'est toujours l'ordre intérieur conscient qui est prioritaire. Voilà. Les robots, les hommes robots, chimères et mutants, sont reliés à un central. Ce central leur donne des ordres. Et ces ordres sont prioritaires par rapport aux ordres que les humains leur donnent. Ce qui fait que le groupe Jeune Tout détient l'armée, la police, les transports, les métiers de service, puisque c'est chez eux qu'est centralisé les ordres et qu'ils vendent les robots humains. Au fur et à mesure que la guerre avance, la vente augmente, car cette guerre démontre aux éventuels acheteurs la bonne efficacité du produit. C'est une bonne publicité. Et en plus, pour la France, pour les pays étrangers, car les pays étrangers achètent pour leur armée, etc. Mais ils vont acheter les robots, chimères et mutants chez Jeune Tout. Et Jeune Tout à ces robots, chimères, mutants qu'il vend sont reliés à son central. Petit à petit, la surveillance de la planète et ses services, transport, sa sécurité sont toutes centralisées chez Jeune Tout. Ces chimères, mutants, mangent peu et de l'herbe, dorment très peu, ne se soignent pas, mais morts de vieillesse si l'on veut. Ils sont programmés pour un certain temps d'âge et après se désagrègent. Les corps, en surface et intérieur, fondent et il ne reste plus rien. Ils sont autodégradables, écologiques. Aucune maladie ne peut les prendre, ni microbes, ni bactéries. muscles super puissants, cerveau ordinateur ultra puissant, yeux qui voient l'infrarouge à l'infrarouge et à 380 degrés. Donc, ce qui fait qu'il voit plus que l'homme, plus loin et plus petit. Sensibilité plus forte grâce aux cellules. Ce qui fait qu'ils ont des réflexes plus rapides, sont plus sensibles. Certains ont d'autres capacités en plus. Peuvent voler, nager comme des poissons, avec moitié poumon, moitié bronchie, etc., etc. La misère est de plus en plus grande sur Terre, il y a de plus en plus de monde et les gens sont de moins en moins de travail à cause des nouvelles technologies, des chimères, etc. L'homme devrait choisir ou une terre pour les hommes ou une terre pour les robots. Malheureusement, il ne choisit pas et c'est la guerre entre les robots et les hommes. Plus il y a du monde, plus c'est difficile de nourrir le monde car il y a moins de terres cultivable, parce que l'homme prend de plus en plus de place. On attend avec impatience le nouveau continent Genetou. Il y a de plus en plus de gens qui viennent s'inscrire pour y aller y vivre, mais la sélection y est très dure. On continue à envoyer sur la Lune des bactéries et du matériel pour construire des serres pour la culture. On envoie de l'eau et de l'air en bouteille. Jusqu'au jour, ce sera fait par une machine qui produira de l'air. Les centrales atomiques ont des bactéries anti-radioactives, ce qui fait de l'électricité à bon marché. Voiture électrique atomique, bateau atomique, dont le fameux super bateau de Galien qui se construit, avion atomique, fusée, etc., etc. On crée des vaccinations pour l'hépatite B, diarrhée bactérienne avec des bananes. Le vaccin est dans la banane. L'on crée des séries de moutons qui produisent de la laine de couleur, un mouton rouge, un mouton vert, etc., etc. Après la tonte, on met la laine dans des bains pour que la laine ne froisse pas. Les jours passent. Des femmes qui ont été violées par des chimères oiseaux se trouvent enceintes. Elles le sont normalement. Mais elles mettent au monde des chimères oiseaux. Les chimères bébés grandissent vite. Ils ne parlent pas, deviennent violents et veulent tuer leurs parents pour les dévorer. Ils cherchent à s'envoler aussi. S'envolent dans la ville. Ils tuent, cassent, pillent, violent, etc.
Halte la compagnie, pas un mot, pas un geste, je vous arrête.
La police essaye de faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas.
C'est lui qu'il faut embarquer.
La police, même la police chimère, essaye de les détruire. Mais ils n'y arrivent pas. Alors ils vont demander de l'aide au groupe Jeune Tout.
Dis-moi quelque chose.
On n'en sait rien. On n'en sait rien.
Ricain leur dit : « J'ai un gosse, le gosse, qui peut les tuer. C'est le sol qui tue la bactérie qu'ils ont dans leur corps. Et sans cette bactérie, ils ne peuvent se défendre. 50 000 francs, les 10 litres. Et grâce à ce gaz, la police réussit à liquider les chimères. Les jours passent. Galien est seul dans son bureau. C'est la fin de sa journée. Il n'a pas le moral. C'est sûrement dû à l'histoire qu'il a avec Guillaume. Il se demande, est-ce bon de garder chez soi une personne qui est physiquement morte? De garder qu'une partie de son cerveau sur un ordinateur pour parler avec elle? Est-ce bon pour la personne en vie? N'est-ce pas du fétichisme? Ne risque-t-on pas de toujours être le fils, l'enfant? Ne risque-t-on pas de supprimer les générations, d'être dépendant, de refuser la mort pour ceux que l'on aime et pour soi? Les morts qui s'incrustent, qui s'occupe de la vie des vivants, leur donne des conseils hors de. Cela risque aux personnes, ça les empêche d'évoluer, d'être dépendants, d'évoluer et à la société aussi, car elles risquent d'être éternellement dirigées par des vieux et toujours les mêmes. Galien se dit, il y a danger de garder les morts en vie, car ils risquent de manger la vie des vivants. Le soir tombe, et Galien n'a pas envie d'aller dans son appartement. L'ordinateur Pontoise achète des actions de Microsoft et devient majoritaire et président de la société de Bill Gates, qui devient son second. Pour la première fois au monde, un ordinateur devient majoritaire et président d'une entreprise d'ordinateurs. Bill en est tout retourné et regrette, dans le privé, d'avoir donné tant d'intelligence aux ordinateurs. Il se dit, c'est le fils qui rejette et tue le père. J'ai travaillé pour un ordinateur Et maintenant, il veut ma place et ma ruine. Je suis bien puni. Quelle pute, c'est l'ordinateur. Il a ma place par ma faute. C'est moi qui l'ai voulu intelligent. Il est très fort. Et je l'ai tellement bien fait qu'il est devenu plus fort que moi. Danfort dit à la presse « Je tiens à vous dire, c'est que l'ordinateur qui a pris la présidence de Microcoff est un ordinateur qui a de l'ADN de Pontois Félicien, le célèbre humanitaire français, et que c'est une invention 100% genetoux et française. N'entre en considération aucun autre produit de qui que ce soit, même de Monsieur Bill Gates ou autre. Ce qui fait que le groupe Genetoux est numéro 1 en ordinateur mondial. Le bruit de cette affaire permet à Lucien d'apprendre que son père est dans un ordinateur. Il dit à Pascal, après avoir lu dans le salon le journal, « Tu te rends compte, mon père est mort et ils l'ont volé pour le mettre dans un ordinateur. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais demander des comptes et les traîner en justice. J'aurais jamais cru ça de Galien. » Lucien va voir son avocat et la justice se met en route. La presse mondiale attend la sentence du procès. Bill aussi et se dit que peut-être il va redevenir président. Après plusieurs mois de préparation, le procès a lieu à Grenoble. 10 000 journalistes, télévision, radio, internet, le monde entier. Le groupe Genetoux est défendu par un grand maître du barreau, celui qui défend les causes indéfendables, les grands criminels, les nazis, les tueurs en série, etc., etc. Un grand homme fort à cheveux blancs et lunettes. Pour sa plaidoirie, l'avocat de la défense a dit qui refuse à un de sa famille de revivre grâce à un ordinateur est un criminel. On n'a pas le droit de refuser l'immortalité à un membre de sa famille. Le coupable est le fils, enfant gâté, vivant seul dans une immense demeure avec son amant aux morts dépravées.
Peut-on avoir le droit de donner à son fils, aussi ainsi dépravé, un père qui a failli être un futur prix Nobel de la paix? Que l'on fasse venir le père, et l'on verra qui choisit le fils à sa nouvelle famille, qui le soit et lui apporte tout ce qu'il désire. Félicien Pontois, qui grâce à sa nouvelle famille est devenu le numéro un en informatique. Lui, qui dans sa famille, on l'aurait mis sur une chaise et déposé dans un coin comme vulgaire objet dans un bureau. L'avocat de Lucien dit, il a été mis aux travaux forcés, à perpétuité. L'avocat de la défense lui dit, vous devriez avoir honte de parler ainsi du plus grand PDG de France. L'avocat Lucien dit, au service du groupe Jeune Tout.
Délibération. Les jurés ont déclaré en leur âme et conscience, étant donné que le corps de Félicien Pontois a été enlevé de sa sépulture illégalement, qu'il y a vol du corps d'un défunt à sa famille, étant donné que vous avez exploité le cadavre et qu'il vous a apporté une bonne somme d'argent, condamnons le groupe Jeune Tout à donner comme dommage et intérêt à M. Lucien Pontois 5 milliards et la restitution du corps à Lucien Pontois, seul membre de la famille. Galien et Danfort restent sur le coup pour ce qui est de l'ordinateur. Galien d'Enfort convoque Lucien dans le bureau de Galien. Galien et Danfort vont rester donner le corps de Félicien Pontois au fils. Galien lui dit, que faisons-nous pour le cerveau de votre père? Si nous débranchons de l'ordinateur, il revient à la mort. Lucien lui dit, je reprends le cerveau avec l'ordinateur. Galien lui dit, il n'en est pas question. On doit vous rendre le corps de votre père et rien d'autre. Et si vous prenez le cerveau, nous gardons l'ordinateur et le cerveau de votre père sera mort. Réfléchissez. Si vous dites de laisser brancher le cerveau de votre père sur l'ordinateur, le cerveau restera ici, chez nous. Lucien lui dit, je réfléchis. Et il dit, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas tuer mon père. Donc, il restera branché. Mais comme le cerveau de mon père est ma propriété, je demande un pourcentage sur ses bénéfices. Galien lui dit, il faut en finir avec cette mauvaise affaire et se faire oublier. Je te donne 20% du chiffre d'affaires. Non, plus. 30. Non, plus. 40. Je ne peux pas plus. C'est moi qui ai l'entretien de l'ordinateur et qui vérifie les placements. Lucien lui dit, D'accord. Mais je demande à voir mon père pour lui parler quand je veux. Kayane lui dit. Bien. D'accord. Pendant qu'il parlait, Danfort a tout écrit sur papier. Il va faire taper par écrit. Ils ont signé. Le corps de Pontois est resté à son bureau. Les choses deviennent normales. Bill Gatt est furieux. Tout reste en état. Il se dit, c'est français. Il faut toujours qu'ils se mettent d'accord pour plumer les autres. Une semaine plus tard, Lucien va voir son père.
On le laisse seul devant l'ordinateur.
Il tape. Bonjour, père. Je suis Lucien, ton fils. Pontois tape.
Mon fils, donne-moi la preuve que tu es mon fils.
Lucien lui écrit. Père, tu étais toujours en colère contre moi. Je connais aussi ton dossier. Je sais ce que tu mets dans l'eau.
Félicien lui écrit. Ça va, c'est bien toi. Que devient ta mère et ta sœur?
Lucien lui répond. Mère a eu les nerfs malades après ta mort. Elle a été menée dans une maison de repos. Et n'en sort pas. Elle ne parle pas. Ne bouge pas.
Félicien lui écrit. Cela ne m'étonne pas. Après m'avoir tué, elle a eu un choc.
Lucien lui écrit. Tu devrais avoir honte de parler de mère comme ça. Elle n'est pas une criminelle.
Père lui dit. Oh que si! Elle est entrée dans ma chambre, en robe de chambre, et a tiré sur moi. Je suis tombé à terre, mort.
Lucien lui demande. Et pourquoi aurait-elle fait une chose pareille?
Son père lui répond. Je n'ai jamais su pourquoi, mais elle l'a bien fait. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle devient avec ces associations humanitaires?
Lucien lui écrit. Après ta mort, elle a disparu. Elle est partie et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Pourtant, j'ai fait des recherches.
Le père lui dit. Elle est peut-être allée vivre dans un couvent.
Lucien lui écrit. Non, nous avons demandé et rien.
Le père lui demande. Et toi, qu'est-ce que tu deviens?
Lucien lui dit. Je vis chez nous et m'occupe un peu de tes affaires.
Toujours pas envie de te marier?
Non, mais je ne vis pas seul.
Elle est comment?
Lucien lui écrit. Non, c'est un ami. Il s'appelle Pascal. le père Marc.
Pascal, ce nom me dit quelque chose. Ce n'est pas cette espèce de PD qui a voulu me draguer?
Lucien est gêné. Le père tape.
Alors, tu réponds à ton père? Tu en profites, hein? Parce que je suis aveugle et sourd, pour rien me dire. Tu devrais avoir honte de profiter de ton pauvre père.
Lucien lui tape.
Père, je vous en prie, vous n'êtes pas aussi pauvre. Vous êtes l'homme le plus riche du monde. Et puis je ne cherche pas à vous cacher quoi que ce soit ou à profiter de votre handicap.
Oui, si vous voulez vraiment le savoir, Pascal est un ancien prostitué. Mais c'est un gentil garçon.
Le père lui écrit. Tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Il n'en manque pas dans notre milieu. Tu aurais dû me le demander. J'aurais fait une bonne alliance avec une autre entreprise. Et j'avais même un cardinal.
Lucien lui écrit.
Surtout pas le primat des Gaules.
Son père lui répond.
Non, un vrai, un Italien. Il sera peut-être pape un jour. Si un jour tu veux changer.
Merci, père.
Le père lui tape.
Moi, j'ai fait la connaissance d'une femme charmante, Madame de Fleury. Nous passons des moments délicieux à jouer à la bourse ensemble. Elle est vraiment charmante, moins folle que ta mère. Si tu la vois, ta mère, ne lui dis pas ce que je suis devenu. Elle serait capable de me débrancher. Allez, il te faut me laisser. La bourse de New York va ouvrir.
Bien, père. Je te laisse. À bientôt.
Oui, à bientôt.
Lucien se dit. C'est bizarre. J'ai vraiment eu l'impression de lui parler. Quel homme, même la mort, ne peut le changer.
Et Lucien le quitte. Arrivé à Lyon, il retrouve Pascal au salon.
Il lui dit la conversation qu'il a eue avec son père. Et lui dit,
je me demande pourquoi ma mère l'a tué.
Pascal lui dit, Peut-être a-t-elle appris pour ses affaires. Mais qui le lui aurait appris? Pascal lui dit. Peut-être ta sœur? Le chien lui dit. Ça m'étonne. Elle aimait trop son père. Pascal lui dit. Peut-être que le dossier, elle l'a lu. Qui? Ma mère? Ma sœur? Peut-être les deux? Lucien lui dit. C'est vrai que le dossier a disparu depuis la mort de père et que je ne sais pas ce qui est devenu. Elle l'a peut-être brûlé. Pascal lui demande. Qui? Celle qui l'a? Mais je crois que c'est plutôt ma mère. Il faudra aller la voir un jour et essayer de savoir ce qui s'est passé. Les visites lui sont interdites, mais elle n'est tout de même pas en prison. C'est pas normal qu'elle ne puisse pas recevoir. Il faudrait qu'un jour, je parle à son médecin. À Pontoise et aux ordinateurs Gentoo qui ont de l'ADN plus l'entreprise de Bill Gates, la France, grâce à Gentoo, devient la première puissance mondiale en ordinateurs et en a le monopole. Les Américains sont furieux. Ils demandent à la concurrence internationale si c'est bien légal qu'Omer devienne président d'une multinationale et si c'est légal de faire concurrence avec un mort. La justice internationale dit qu'il n'y a rien d'illégal quand s'empare d'un groupe grâce à un ordinateur, que de toute façon ce n'est pas l'ordinateur qui est le propriétaire de ses succès, mais son propriétaire à lui. Ce n'est pas l'ordinateur qui a fait l'OPA sur le groupe, mais le programme que l'on a mis dans l'ordinateur. Donc, c'est tout à fait légal que de se servir d'un ordinateur pour faire une OPA comme d'un téléphone. Les Américains protestent et disent « Et le mort ?» Les juges internationaux leur disent « Le cerveau d'un mort n'est qu'un moteur ou une mémoire, comme le moteur d'une machine ou d'une voiture. » Ce n'est pas le moteur de la voiture qui dit où il faut aller et ce qu'il faut faire, mais le conducteur et c'est celui qui manipule l'ordinateur et celui qui a fait le programme pour lui. Que l'ordinateur est un moteur ou une mémoire à base de cerveau humain ou de plastique de Mika, c'est la même chose. Les Américains ont beau dire que le cerveau marche tout seul, ils n'ont pas gain de cause. On leur dit officiellement, une machine qui marche comme un humain, ça n'existe pas. Ça fait beaucoup rire Galien et Danfort. Bill Gates prend une jaunisse. Il ne supporte plus de vivre dans sa superbe maison. Il ne supporte plus les ordinateurs et les choses télécommandées. Va vivre à la campagne au milieu des moutons. Sa femme crie et veut lui en dissuader.
Comment ferons-nous pour finir de payer tout ce que nous avons acheté? Et puis en plus, tu n'es plus président de ton groupe. Tu vas moins gagner. Si tu vends ta maison à perte, ce sera terrible. Tout le monde va se moquer de nous.
Dans le laboratoire Riquin, l'on cultive une super araignée tueuse d'insectes. On lui a mis une bactérie spéciale qui lui crée un poison très dangereux. Cette bactérie a été implantée dans l'araignée grâce à l'ADN. Riquin s'est aperçu que ce poison était très dangereux même pour les hommes. Il en a interdit la circulation. Les araignées sont dans des bocaux de verre.
Un soir, une femme de ménage vient faire le ménage dans le laboratoire. Elle fait tomber un repos qui se casse. L'araignée en profite pour disparaître. La femme de ménage, pour éviter de se faire disputer, ramasse les morceaux de verre et ne dit rien.